9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, AVS à votre santé. Ah, disons, j'ai couru là. Ça tombe bien, on va parler de respiration ce matin avec mon invité, le docteur Lionel Coudron. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Je vais vous chercher un masque. Alors, rapprochez-vous de votre micro.
Oui. Alors, est-ce que c'est bon comme ça?
Ah, vous êtes parfait. Attends. Ah, parce qu'il faut mettre le masque sous les lunettes. Voilà.
Ah, ça, moi, je préfère. Je le porte comme ça sur les branches de lunettes.
Ouais.
Ça m'évite d'avoir des oreilles en feuilles de chou.
Bien.
Parce que ouais. Mes oreilles sont souples faisant du yoga, vous voyez. Donc si je mets les...
Ah, vous êtes souple aussi des oreilles. Ouais. Je ne savais pas que le yoga faisait travailler les oreilles.
Alors non, mais ce qui se passe, c'est que quand vous faites travailler votre corps, il va sécréter des substances qui permettent d'améliorer la structure de collagène, à rendre plus élastique, et la souplesse, elle ne va pas se traduire uniquement au niveau de l'articulation étirée, mais sur l'ensemble du corps, y compris par exemple au niveau des artères, y compris par exemple au niveau des bronches, d'où l'intérêt sur un plan général.
Alors, vous êtes docteur en médecine, diplômé en nutrithérapie et acupuncteur. Vous enseignez le yoga depuis 35 ans. C'est d'ailleurs le yoga qui vous a donné envie de devenir docteur. Pourquoi ?
Ouais. Alors, je vais même rectifier. Parce que comme ça fait 10 ans que je viens, c'est plus 35 ans que je fais du yoga, c'est 45 ans.
Oh, tout augmente, c'est comme les impôts.
Ouais, ouais, c'est 45 ans. Donc, pourquoi je suis venu à la médecine ? Parce que je faisais du yoga. Et parce que je voulais mieux comprendre pourquoi le yoga fonctionnait, pourquoi mon voisin, quand je faisais du yoga à 15 ans, alors qu'il avait mal au dos, en faisant du yoga au bout de quelques semaines, il n'avait plus mal au dos. Donc, j'avais envie de comprendre tout ça. Et c'est ça qui m'a amené à faire médecine, à étudier et à faire de la biologie, de la médecine du sport, de la nutrition, pour mieux comprendre, mieux cerner le miracle que chaque être humain est.
D'ailleurs, aujourd'hui, vous utilisez le yoga à des fins thérapeutiques, même si au départ, ce n'était pas prouvé scientifiquement.
Oui, absolument. C'est-à-dire que le yoga, on sait intuitivement qu'il a une action physiologique depuis maintenant plus d'un siècle. Les premières études, véritablement, remontent aux années 1920. Elles ont été menées en Inde par des Indiens qui avaient vraiment envie de montrer la qualité de leur culture et la richesse de leur culture. Donc on sait que ça a une action physiologique et on s'est rendu compte, de façon expérimentale, que ça avait des bénéfices santé. Mmh. Mais de la même façon, je dirais que l'activité sportive, manger mieux, avoir une vie saine, a un impact positif en termes de santé. Mais le yoga a comme intérêt de recéler à la fois une activité physique, un travail respiratoire, également de gérer les émotions, l'anxiété, le stress. Et ces trois éléments, la sédentarité, la malbouffe et le stress, sont des facteurs majeurs des troubles de santé.
Alors, vous venez nous présenter ce matin deux nouveaux volumes de la collection Yoga Thérapie chez Odile Jacob. Alors, le premier, c'est traiter les troubles respiratoires. Et le deuxième, c'est yoga thérapie, soigner le mal de dos. Donc ça, c'est
oui,
pour
ce sont deux nouveaux ouvrages.
Voilà, dans cette collection, on soigne beaucoup de choses avec la yoga thérapie dans toute cette collection. Si on vous écoute, on soigne tout avec le yoga, d'ailleurs.
Alors, on va soigner tout. Ça ne veut pas dire qu'on va tout guérir et qu'on va pouvoir traiter à 100%. Mais c'est vrai qu'on peut soigner beaucoup de choses parce que dans beaucoup de pathologies, dans beaucoup de troubles, il va y avoir des incidences qui vont se traduire en termes d'émotions, de perturbations. On va plus ou moins bien vivre sa pathologie. Il y a des traductions également sur le plan physique. J'ai mal au dos, certes, mais je vais me crisper par ailleurs, je vais me tendre. Et puis, il va y avoir aussi des incidences sur le fait de mal ou bien respirer. Donc, dans chaque pathologie, dans chaque trouble, on peut agir sur le noyau dur ou sur un noyau connexe qui vient se rajouter et qui rajoute de la peine à la peine, et ça on peut le retirer, on peut l'améliorer. Et c'est pourquoi cette yoga thérapie trouve sa place dans le système de soins, et ça je me bats pour ça, pour que ça apporte, ça s'ouvre encore de plus en plus comme accompagnement, comme complément. Ça remplace pas les autres traitements, mais ça vient comme complément aux autres traitements pour aider les personnes à mieux vivre leurs troubles, voire effectivement à mieux guérir.
Quelle différence entre le yoga et la yoga thérapie, en fait ?
Alors, le yoga, c'est l'ensemble de la méthode qui associe posture, respiration, concentration, méditation, visualisation. Alors que la yoga thérapie, ça va être appliqué à des troubles de santé. Donc, ça va être adapté à la personne en fonction de ses handicaps, de ses difficultés, avec une orientation d'une prise en charge individuelle, beaucoup plus ciblée.
Mmh. Combien de temps par semaine est-ce qu'il faut en faire pour que ce soit efficace ?
20 minutes par jour. La plupart des études qui ont été faites sur telle ou telle pathologie sont construites avec une pratique de 3 heures par semaine, donc ça veut dire 20 minutes par jour, sur quelques semaines. Et c'est cela qui est aussi passionnant à voir, c'est que l'évolution et l'amélioration, elle est assez rapide.
Ce que vous dites, hein, c'est qu'il ne faut pas trop en faire, mais il faut bien en faire.
Alors ça, c'est très important. C'est ce que vous dites là, vraiment, je le reprendrai aussi, parce que c'est très juste. Il ne faut pas trop en faire, il faut bien en faire. Vous voyez, je reprends déjà votre phrase. Parce que trop en faire fait que l'organisme peut aussi s'user. Et les extrêmes, on sait, sont jamais très bons. Donc c'est la voie du juste milieu. Et on va vraiment porter l'accent sur la qualité de la pratique. Car c'est pas tellement... Bien sûr que l'exercice physique... L'activité physique, l'étirement, la mobilisation est importante. L'amplitude respiratoire est importante. Mais la qualité qu'on va ajouter dans la pratique est déterminante, parce que ce que l'on veut avant tout, et c'est ce que nous disent les yogis depuis 2000 ans, c'est modifier l'état dans lequel on se trouve. C'est diminuer l'agitation mentale et amener un état de calme et de paix.
Alors attention, hein, la yoga-thérapie ne se substitue pas à un traitement.
Non.
Elle s'intègre dans un parcours de soins.
Oui, exactement.
Hein, c'est pas pour ça que vous arrêterez vos médicaments si vous en prenez.
Non, on le voit bien d'ailleurs, puisque je suis également consultant pour un groupe de cliniques dans lesquelles on introduit la yoga-thérapie, c'est le groupe Orpea Clinéa, pour ne pas le nommer, et dans ce groupe-là, il y a des yoga-thérapeutes qui viennent prendre en charge à côté du kiné, à côté de la psychologue, du psychologue, à côté de l'ergothérapeute, à côté de l'aide-soignant, à côté du médecin, à côté du chirurgien, pour permettre au patient, soit au lit, le yoga-thérapeute intervient au lit du patient, soit il intervient directement en petit groupe, pour aider ce patient à mieux vivre sa maladie, mieux vivre ses traitements, mieux vivre son hospitalisation.
Alors, le yoga, il agit sur le fond ou sur les conséquences ? Sur les symptômes.
Eh bien, les deux. Il va agir sur les symptômes, mais aussi sur parfois la cause de ces symptômes même. Par exemple, dans les douleurs. Dans les douleurs, beaucoup de douleurs chroniques, quand je parle de douleurs chroniques, peuvent être la conséquence d'une crispation, d'une tension, d'une stupeur de la personne qui est tétanisée avec sa douleur. Eh bien, la respiration, je reviens toujours avec les mêmes termes, hein, la mobilisation en douceur, en étirement, et on va pendiculer tout à l'heure, je n'oublie pas.
N'oublie pas qu'on doit pendiculer avec Kim.
Va permettre de décrisper cet ensemble, et cette douleur qui était résistante au traitement, aux neuroleptiques, qui était résistante aux antalgiques forts, qui était résistante aux traitements anxiolytiques associés, d'un seul coup, en quelques jours, va diminuer, se résorber. Et là, on agit vraiment sur les symptômes, la douleur, et aussi sur la cause des symptômes, le blocage, la crispation, la tension.
Alors, on va beaucoup parler de respiration ce matin, notamment parce qu'une des pathologies de la Covid, c'est le syndrome respiratoire. La respiration, c'est une fonction automatique. Qu'est-ce qu'il se passe quand le système de respiration est défaillant ?
Alors, à plusieurs niveaux, hein, vous venez de le dire, la respiration, c'est un élément clé, central, vital, et effectivement, c'est vrai que c'est là aussi, on met les projecteurs sur l'arbre respiratoire, l'appareil respiratoire avec la Covid, c'est clair. Mais la respiration, ce n'est pas juste s'oxygéner, c'est pas juste un échange de gaz. Bien sûr que je prends de l'oxygène, j'élimine le CO2, c'est clair, ça fait partie de la respiration, c'est fondamental. Ça mène l'oxygène au poumon, le poumon passe dans le sang l'amène aux cellules, et on a toute la respiration cellulaire qui va suivre au bout. Mais la respiration, ça se fait aussi à travers un muscle majeur qui est le diaphragme. Et le diaphragme, c'est un muscle strié extrêmement puissant et très important. Et il a une répercussion sur l'ensemble des autres groupes musculaires. Si ce muscle ne fonctionne pas bien et crispé, les autres muscles vont se crisper. Si ce muscle arrive à bien se détendre à chaque expiration, je vais avoir un impact général, je vais détendre mes muscles de mon corps. Et puis, il y a un élément, c'est que la respiration, elle est certes automatique, mais l'être humain a cette capacité de la contrôler. Les autres animaux ne peuvent pas contrôler volontairement leur respiration. Elles fonctionnent uniquement par réflexe et s'adaptent aux besoins. Et nous, on a la possibilité d'agir sur la respiration et d'agir sur la fréquence respiratoire. Or, dans notre cerveau, la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de fois où vous respirez par minute, est directement corrélé à notre état émotionnel.
Alors, une fréquence respiratoire normale, c'est combien de respirations par minute ?
12-15.
D'accord.
Et on peut la baisser à 6 par minute.
Ça, c'est quand, c'est quand on la contrôle, c'est ça ?
Ça, c'est quand spontanément on se met dans un état de calme. On peut la ramener à 6. Mais quand on la contrôle, on peut la ramener à 1 ou 2 par minute. Et puis, les apnéistes, bah, ils font faire une respiration toutes les 10 minutes. J'exagère, mais ils peuvent rester longtemps sans respirer. Eh bien, on le sait, quand je dis « on », c'est toutes les méthodes de gestion du stress, du trac, des émotions, s'appuient sur la gestion de la respiration. Toutes les techniques de gestion du stress et de parole en public ou autres vont s'appuyer sur la gestion de la respiration. Et on vous le dit régulièrement, respire calmement, prends une grande respiration, souffle un coup. Donc tout ceci, il y a des tonnes d'expressions avec la respiration pour nous ramener à cette idée que la respiration, la fréquence respiratoire et au-delà le souffle est un élément clé de notre état, de notre état émotionnel.
Alors, docteur Lionel Coudron, quels sont les troubles respiratoires dont vous parlez ce matin et sur lesquels pratiquer la yoga-thérapie est efficace ?
Alors, il y a bien sûr les troubles respiratoires les plus connus, je dirais, comme l'asthme, comme la bronchite chronique, qui sont des troubles importants et qui touchent un pourcentage de la population qui est effectivement conséquent. Donc déjà, on a une amélioration nette sur ces troubles qui ont des répercussions qui sont d'abord hautement anxiogènes, car lorsqu'on ne respire pas bien à cause de ces pathologies vraiment bien étiquetées, et on reparlera d'autres troubles respiratoires tout à l'heure, mais quand on parle de ces troubles, quand on a du mal à respirer, quand on suffoque un peu, et on parle de la période du Covid, et je suis allé comme infirmier pendant les mois de mars, avril, pour donner un coup de main à mes confrères, mais en tant qu'infirmier, eh bien, on voit bien que quand on a du mal à respirer, c'est très anxiogène, on angoisse.
C'est paniquant.
C'est paniquant, absolument, ouais. C'est ce qu'il y a de pire, hein, de voir ce sentiment de manquer d'air. Donc, il y a une dimension qui se rajoute à ces pathologies. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que, étant mal quand on manque d'air, on va réduire notre activité. Et très vite, les personnes qui ont des bronchites chroniques peuvent s'installer dans une réduction de leur activité physique et avoir ce qu'on appelle, et c'est dramatique, un déconditionnement à l'effort. Dès que je bouge, je respire mal, je m'angoisse, donc je ne bouge plus, je bouge de moins en moins, et je perds mes muscles, j'ai une fonte musculaire. Et ceci va enchaîner un cercle
vicieux.
C'est le
cercle vicieux, oui.
Ouais. Donc, il va falloir rattraper ça. Et le yoga a ça d'intéressant, c'est que ça va amener cette dimension de travail sur la cage thoracique, sur l'aspect mécanique, donc va faciliter aussi l'élimination des sécrétions, va améliorer toute la dimension mécanique respiratoire, mais aussi la dimension anxieuse, et va permettre de redonner confiance à la personne dans sa respiration.
Bien, alors on va parler beaucoup de la respiration ce matin. Si vous avez des questions à poser au docteur Lionel Coudron, vous pouvez le faire au 01 53 48 3000. On verra si finalement le yoga, tout le monde peut le pratiquer. 01 53 48 3000.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, avec mon invité, le docteur Lionel Coudron ce matin, docteur en médecine, mais vous êtes là pour nous parler de yoga, puisque vous pratiquez le yoga depuis que vous avez 14 ans. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de yoga-thérapie. Vous avez une collection chez Odile Jacob, et donc vous appliquez la yoga-thérapie à pas mal de troubles. Donc ce matin, on parle des derniers, hein, traiter les troubles respiratoires qui viennent de sortir, et puis soigner le mal de dos. Vous êtes réveillé de bonne humeur ce matin ?
Toujours. toujours, j'ai cette chance, effectivement, de pouvoir me réveiller instantanément de bonne humeur. Mais si je ne l'avais pas été, j'aurais mis Beurre FM et je le serais devenu.
C'est bien comme ça. Bon, comment est-ce qu'on reprend confiance en sa respiration grâce au yoga?
Alors, c'est vrai qu'on peut perdre confiance dans sa respiration. Quand on a des essoufflements, quand on a ce sentiment de manque d'air, on va progressivement s'angoisser. Et cette angoisse a comme effet justement de bloquer sa respiration. Quand on est anxieux, inquiet, angoissé, j'ai le souffle coupé. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va prendre conscience de ce qui se passe et on va synchroniser, faire un mouvement avec la respiration et on va réapprivoiser sa respiration en se rendant compte que l'on peut justement la modifier. Et on parlait tout à l'heure de pendiculation. La pendiculation, ce n'est rien d'autre qu'un étirement qui s'associe à une respiration.
C'est ce que font les chats, en gros.
Voilà, c'est ce que font les chats, les chiens. Si vous avez des chats et des chiens, vous les observez et vous allez voir qu'ils vont inspirer, s'étirer. Ils vont retenir le souffle et vous allez voir votre chien qui va ouvrir grand la gueule et qui va bâiller. Eh bien, ça, c'est une pendiculation. Eh bien, le principe du yoga, c'est celui-ci. Et le principe pour reprendre confiance dans sa respiration, dans son souffle, c'est celui-ci, c'est d'associer un mouvement à la respiration et de se rendre compte qu'on peut agir dessus.
Et donc vous associez des mouvements à chaque type de pathologie, l'asthme, la bronchite chronique dont on parlait, mais et d'autres.
Oui, et dans les troubles respiratoires chroniques comme l'asthme et la bronchite chronique, on va travailler sur la cage thoracique. Parce que à terme, lorsque ce trouble se chronicise, on va avoir une réduction de la capacité respiratoire. Donc ce qu'il faut, c'est déjà redonner à l'ensemble mécanique cette possibilité de ventiler. Déjà, c'est un premier point. Donc, lever les contractures, les rétractions musculaires qui font qu'on va se ratatiner sur soi et qu'on va avoir une faible amplitude. Et ça, c'est déjà un premier point. Donc des postures d'ouverture toutes simples qui, encore une fois, je le répète, s'associent à la respiration et s'associe à la conscience du geste. Et puis à côté de cela, on va travailler aussi sur la fréquence respiratoire et on va se rendre compte qu'on peut jouer sur cette fréquence. C'est-à-dire qu'on peut la ralentir et en la ralentissant, eh bien on va se réapprivoiser cette respiration, on va réapprivoiser l'état de détente qui s'y associe et je dirais que le tour est joué et on va s'entraîner à bien refaire ses exercices, à prendre conscience qu'on peut jouer dessus, et ce qui fait qu'on a très rapidement une amélioration.
Et ce sont des exercices que tout le monde peut pratiquer, qui sont faciles à faire.
Alors c'est ça l'intérêt de la yoga-thérapie, c'est qu'on va choisir toujours l'exercice le plus simple pour la même efficacité. Et donc ce sont des exercices toujours, toujours abordables, et on va ajuster, adapter l'exercice à la personne, en fonction de son parcours, en fonction de sa difficulté. On ne travaille pas de la même façon avec une personne qui a des antécédents de trauma, une personne qui a 20 ans, une personne qui en a 40, une personne qui en a 80. Donc, on ajuste et on a toujours vous savez, il y a à peu près en yoga-thérapie une centaine d'outils différents. Il y a 108 outils différents. Donc, on a le choix. On ouvre sa boîte à outils et on prend la clé qui va convenir pour la personne.
Alors, lorsqu'on souffre de troubles respiratoires, dites-vous, on assiste à un raccourcissement des muscles pectoraux, c'est-à-dire ?
Eh bien, les muscles pectoraux, ce sont des muscles qui permettent de ramener les épaules en avant. Donc, ces muscles vont se rétracter. On a tendance à se ratatiner sur soi.
Donc, on se replie sur soi, c'est ça ?
Absolument. On arrondit son dos et de ce fait, on n'a plus cette capacité d'ouverture. Or, si les épaules sont basculées en avant, qu'on a une syphose dorsale, le dos est replié, eh bien, on diminue cette possibilité de ventilation. Donc, ce qu'on veut, c'est ouvrir ses épaules, se redresser, en fait, mais aussi, en même temps, amener de la... Vous voyez, je m'incline sur le côté gauche, je m'incline sur le côté droit en vous expliquant l'exercice. On va permettre à ces côtes, à la cage thoracique, de pouvoir se déployer au maximum, mais aussi de pouvoir se replier au maximum. Plus j'ai cette capacité de me ratatiner et de m'ouvrir, et plus je vais développer mon volume respiratoire. Et de ce fait, si j'ai un plus grand volume, je peux réduire ma fréquence et être plus calme.
Alors, il y a les deux. Parfois, on a du mal à pouvoir prendre suffisamment d'air, mais on peut, à l'inverse, avoir du mal à le vider.
Oui. Alors, ben, l'asthme, c'est exactement cela. C'est je ne peux pas vider. Donc, je suis toujours en suffocation, mais à plein.
On n'arrive pas à vider ses poumons.
Je ne peux pas vider mes poumons. Et puis, la bronchite, c'est l'inverse. C'est que je ne peux pas ventiler correctement. Je ne peux pas rentrer suffisamment d'air. Mmh. Absolument. D'où l'intérêt d'avoir, justement, des outils, des exercices qui permettent de développer les deux possibilités.
Mmh. C'est-à-dire qu'avec la yoga-thérapie, on peut à la fois développer son inspiration et développer son expiration. C'est ça que ça veut dire?
Absolument.
Et on peut travailler dessus?
Absolument. Et vous allez faciliter aussi l'élimination des sécrétions qui obstruent les bronches et qui empêchent l'air de circuler.
Est-ce que vous appelez, vous, la respiration carrée? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une respiration carrée?
Donc, une fois qu'on a remis en place la mécanique ventilatoire, on va jouer sur la fréquence respiratoire. Et la fréquence respiratoire, elle va consister à ralentir donc la respiration. Et pour ralentir la respiration, je vais faire des inspirations, mais je vais aussi rajouter des temps de suspension, de pause, à plein et à vide. Et une respiration carrée, c'est une respiration dont les quatre temps respiratoires, on ne va pas y en avoir que deux, il va y en avoir quatre, avec la pause à plein et la pause à vide. J'inspire 1, je suspends le souffle 2, j'expire 3, je suspends à vide 4. Eh bien, ces quatre phases-là vont être à peu près égales. Et ça va tout de suite allonger ma respiration. Au lieu de faire j'inspire, j'expire, voilà.
Donc là, on est sur 2.
Voilà, enfin, on est sur 2 et ça m'aura pris peut-être 4-5 secondes. Eh bien, en faisant ces quatre temps, je vais déjà être sur 10 secondes pour une respiration, et 10 secondes pour une respiration, ça me fait 6 respirations par minute, et je suis déjà dans un état de calme. J'ai déjà modifié mon état.
Mmh. Ça, vous le conseillez de le faire à quel moment de la journée?
Alors, ça, le gros avantage, c'est que cette respiration, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, mais au début, il va falloir s'entraîner au moins 3-4 minutes le matin, 3-4 minutes le soir, et à temps perdu. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire tout le temps, quasiment. Et si vous faites en tout 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, vous avez déjà fait, ben vous voyez, 6 minutes, plus quelques exercices et postures, en 20 minutes par jour, vous avez déjà repris la main sur le trouble respiratoire, sur une partie de votre corps qui commençait à vous échapper, qui commençait à devenir un ennemi de vous-même. Et c'est important d'être en cohérence avec soi et de réapproprier une certaine partie de son corps.
Alors, par exemple, pour les troubles de la respiration, comment ça se passe une séance de yoga-thérapie quand on va voir le médecin pour la première fois? D'abord, on va voir qui?
Alors, on va voir un yoga-thérapeute. Et les yoga-thérapeutes, ce sont soit des personnels de santé qui ont fait une formation complémentaire en yoga-thérapie, soit des professeurs de yoga qui ont fait une formation complémentaire en yoga-thérapie. Mmh. Et donc, ils sont yoga-thérapeutes. Ça demande à peu près 600-700 heures de formation complémentaire à leur profession. Donc, ça peut être un kiné, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être un dentiste, ça peut être un professeur de yoga, bien sûr. La majorité sont professeurs de yoga. Enfin non, la majorité sont professeurs de yoga, 60% contre 40% de soignants.
De praticiens de santé, ouais.
Voilà. Et donc, vous voyez ce yoga thérapeute qui fait un bilan. Et le bilan, c'est depuis quand souffrez-vous? Depuis quand avez-vous ces troubles? Quels sont les facteurs aggravants? Il voit au niveau mécanique votre capacité à respirer ou pas. Il va voir aussi votre état émotionnel en fonction de cela. S'il y a des facteurs anxio-dépressifs sous-jacents, puisque on prend en compte la globalité de la personne. Et le projet, c'est d'amener la personne à être mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur. Donc, à sentir dans son corps, c'est plus fluide, à se réapprivoiser son corps, et ça se traduit aussi, encore une fois, par une respiration qui va être plus calme.
Alors, il y a des troubles qui sont fréquents, qu'on connaît moins, hein, ce sont les troubles somatoformes et les syndromes d'hyperventilation. Qu'est-ce qu'on appelle ces fameux troubles somatoformes?
Alors, c'est vrai que c'est peu connu, mais ce sont tous les troubles où la respiration est associée, souvent des troubles qui sont plutôt lié à de l'anxiété, au stress, au fait d'être crispé et sidéré. Et ça peut se traduire aussi bien par des phénomènes de bâillement, qui ne sont pas gérables, qui peuvent handicaper la vie. Ce sont aussi des troubles de déglutition, où l'on a du mal à avaler. Ce sont les soupirs fréquents, où l'on a toujours ce sentiment de manque d'air. Et puis, l'hyperventilation, eh bien, c'est ce qu'on appelle classiquement les crises d'attaque de panique. C'est un mécanisme qui entraîne une respiration accélérée. Et cette respiration accélérée va déboucher sur une élimination du CO2, du gaz carbonique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça devient un enchaînement pathologique important et ça débouche sur une crise d'angoisse. Je respire vite, j'élimine mon CO2 et ça débouche sur une crise d'angoisse. Donc ça crée des attaques de panique, des moments où on se sent mourir. Et c'est
oui,
très
anxiogène. Et puis les gens qui la voient arriver, ils le savent, ils sont face à leur attaque de panique, qui porte bien son nom d'ailleurs.
Oui.
Parce que la panique rajoute à la panique.
Exactement, l'attaque de panique se définit justement comme la peur de faire une attaque de panique, la peur d'avoir ce trouble. Et c'est ça qui fait qu'après, la personne est dans un état de peur.
On se la déclenche, c'est ça ?
Oui. Oui, on va se la déclencher et on va souvent l'associer même à des environnements. Chez les femmes, à peu près 80% des attaques de panique sont déclenchées en fonction de l'environnement. Par exemple, ça va s'associer à de l'agoraphobie ou à de la claustrophobie. Je vais déclencher mon attaque de panique dans un environnement où il y aura beaucoup de monde, ou ça peut être au contraire dans un environnement réduit, comme un ascenseur. Donc ça peut déboucher sur une agoraphobie ou une claustrophobie.
Donc l'agoraphobie, c'est la peur d'être enfermé, c'est ça ?
Alors, la claustrophobie, c'est la peur d'être enfermé, et l'agoraphobie, c'est la peur de la foule.
D'accord.
La peur d'être, par exemple, dans un grand magasin, vous ne pouvez plus y aller. Et puis, ça peut se déclencher aussi en fonction de l'éloignement du domicile. Dès que je m'éloigne d'un lieu de sécurité, je vais paniquer, et je ne peux plus aller à l'autre bout de Paris, je ne peux plus aller en province, je ne peux plus voyager.
D'accord. Et comment vous le prenez en charge, ça ?
Alors, ça, c'est très facile, paradoxalement. C'est un syndrome qui est très connu. Il y a déjà une trentaine d'années de cela, le docteur Christine Mirabel-Saron, qui est psychiatre à Sainte-Anne, avait fait des études sur l'intérêt de la respiration yoga dans ces attaques de panique. Et c'est une hyperventilation, il faut que la personne reprenne confiance dans sa respiration et qu'elle sache qu'elle peut contrôler sa respiration. Donc, on va l'amener progressivement à comprendre que c'est ce facteur qui est déclenchant, qui génère l'angoisse, mais qu'elle peut reprendre la main et réduire, repasser un état d'angoisse à un état de sérénité. Et de ce fait, en quelques semaines, il y a une amélioration.
Donc là, ce sont des exercices de respiration, en fait.
Alors, ce sont des exercices de respiration, des exercices de relaxation, des exercices de visualisation. Et puis, il y a toute une dimension de la yoga-thérapie qui est très importante, qui se base sur nos pensées irrationnelles, sur nos croyances, où, par exemple, je crois que je ne vais pas pouvoir survivre à une attaque de panique, où je crois que je ne peux plus contrôler mon corps. Et on a deux pédales, un accélérateur, un frein. Ça va être le contrôle et le lâcher-prise. Vous savez, on parle souvent de lâcher prise, mais le lâcher prise ne peut se faire que si on a un sentiment aussi de contrôler. Si je suis que dans le lâcher
prise. C'est vrai qu'on parle jamais du contrôle. On parle beaucoup du lâcher prise en ce moment.
Oui. Et il faut les deux. Vous pouvez pas fonctionner avec une voiture que avec un frein. Il faut qu'il y ait aussi un accélérateur. Et il faut qu'on soit capable de comprendre que je peux avoir une action sur mon attaque de panique si je veux pouvoir m'en sortir. Là, c'est, vous voulez, l'attaque de panique, c'est le cas d'école. Vous ne pouvez pas dire à une personne qui fait des attaques de panique, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu crains rien. Vous lui dites ça.
C'est pire que tout.
Oui, c'est pire que tout. Ouais. Elle dit, de toute façon, il n'a rien compris, et elle part, et elle ne reviendra pas vous voir. Il faut que vous lui donnez des moyens pour reprendre le contrôle de son attaque de panique, parce que sinon, la peur sera là et va vous envahir.
Quelle est la dimension psychologique dans les troubles respiratoires ? Est-ce qu'elle est importante ?
Oui, je pense qu'elle est de l'ordre de... Selon les troubles, dans tous ces troubles somatoformes respiratoires, elle est de 80%. Et il y a l'aspect physiologique qui intervient. Et dans les troubles de l'asthme, la bronchite, c'est un élément qui se rajoute à ce trouble. Ce n'est pas le facteur déclenchant, mais c'est un facteur qui vient se rajouter et qu'on peut apprivoiser encore une fois.
Et vous proposez-vous ce que vous appelez une démarche d'acceptation, c'est-à-dire ?
Alors, à côté de cette capacité à contrôler les choses, à côté de cette capacité à lâcher prise, alors contrôler, ça veut dire, je sais que je peux agir sur moi, j'ai confiance dans mon corps, j'ai confiance dans moi et dans ma capacité à réagir. Le lâcher prise, c'est de se dire, je sais que je vais pouvoir accepter. Alors, pardon, vous voyez, je reprends le terme d'acceptation. Non, le lâcher prise, c'est de se dire, je suis en sécurité, même s'il m'arrive quelque chose, ça ne sera pas très grave. Et l'acceptation, c'est de se dire, ben, j'ai un trouble et je dois faire avec. Il y a des éléments avec lesquels je dois composer. Je ne peux pas tout transformer, je ne peux pas tout changer. Et le fait d'accepter, en quoi c'est important? Et parfois, ça rejoint ce qu'on appelle le lâcher-prise, mais c'est différent. L'acceptation, c'est de diminuer la charge émotionnelle. Parce que si je n'accepte pas quelque chose, je suis en colère contre cette chose. Si je n'accepte pas quelque chose, je suis triste et découragé par rapport à cette chose. Si je n'accepte pas quelque chose, je vais avoir peur de cette chose. Quand je l'accepte, je me décharge de la peur qui se rajoute, je me décharge de la colère qui se rajoute, je me décharge de la tristesse qui se rajoute, et en fait, ça me rend capable d'agir. Tant que je n'accepte pas, je suis bloqué sur une émotion qui m'empêche d'avancer encore plus vite et mieux.
On reviendra sur justement cette acceptation tout à l'heure. Le docteur Lionel Coudron est notre invité ce matin. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de la collection Yoga Thérapie, traiter les troubles respiratoires. C'est un des petits derniers qui vient de sortir. Et puis, soigner le mal de dos, c'est chez Odile Jacob. Si vous avez des questions, eh bien, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h. AVS avec Philippe Robichon.
Et avec mon invité, le docteur Lionel Coudron, nous parlons de yoga thérapie ce matin. Vous présentez deux nouveaux exemplaires de votre collection yoga thérapie chez Odile Jacob, traiter les troubles respiratoires et soigner le mal de dos. Le monde du yoga qui a payé et qui paye encore aujourd'hui un cher tribut à la Covid.
Oui, inévitablement, compte tenu de ce contexte sanitaire et des conditions de protection et des mesures barrières, c'est clair que les salles de yoga en présentiel ont été bien affectées et payent un lourd tribut, effectivement, aux mesures. Oui.
Aujourd'hui, elles sont fermées au même titre que les salles de sport.
Absolument, ouais. Tout à fait.
Ça se passe en ligne, maintenant.
Alors, pour beaucoup, effectivement, on a choisi de pouvoir continuer ce lien et d'amener à nos élèves des possibilités de cours à travers les moyens modernes dont on dispose, qui sont les cours en ligne.
Ouais. Bon, Lionel Coudron, on fait un petit exercice de pendiculation ce matin. Allez, on y va, c'est le moment.
Alors, c'est
9h45 en direct, est-ce que vous êtes tous prêts chez vous?
Donc, si vous êtes prêts, il suffit d'être assis ou debout. Le mieux, c'est même de vous mettre debout, mais vous allez voir, c'est très simple. Il suffit que vous inspiriez en levant les bras. Je vais le faire en même temps. Vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel en V. Comme le ferait un animal, vous retenez le souffle, vous étirez bien. Vous pouvez serrer les poings, entrelacer les doigts, plier les bras si vous voulez. Vous retenez le souffle, vous retenez le souffle, vous retenez le souffle. Et puis, vous allez ouvrir grand la bouche et bâiller à vous décrocher la mâchoire en relâchant les bras. Voilà. Et vous allez un peu rouler les épaules. Le bas du dos a été un petit peu creusé également. Et surtout, surtout, ce qu'il faut, c'est que pendant cet exercice, vous allez rechercher la sensation agréable. Comme un animal qui s'étire. Imaginez un chien, un chat qui s'étire. Et vous devez reproduire le même exercice. Alors, est-ce que Philippe, vous voulez bien qu'on refasse l'exercice tous ensemble?
C'est bien de le faire tous ensemble une deuxième fois. Mais vous n'êtes pas resté en V, hein, je ne veux pas dire, mais...
Non, j'ai
fait un W après.
Après, exactement, on peut plier les bras pour adapter en fonction de ce qu'on va ressentir. Et c'est ce que je voulais aussi bien préciser, merci. C'est si jamais vous avez mal aux épaules, à la nuque, il ne faut pas que vous fassiez mal. Donc vous allez plier les bras et vous n'allez pas rester en V.
Oui, parce que ça tire.
Exactement. Ouais. Donc il va falloir trouver sa position. Mais le but, c'est j'inspire, je retiens le souffle, je contracte le maximum, je creuse un peu le bas du dos, parce que les chiens, les chats vont creuser le dos. Mais il n'y a pas que les chiens et les chats, hein, c'est tous les animaux qui font ces exercices. Et vous relâchez, vous expirez. Et donc, ça, c'est un instinct.
Là, on est parti pour le deuxième tour, deuxième...
Voilà. Donc, vous nous suivez, vous inspirez bien, vous levez les bras, soit en V, soit à l'horizontale. Vous pouvez plier les bras si vous voulez, sinon vous restez en V. Vous retenez le souffle tant que vous êtes bien. Voilà. Et vous allez retenir le souffle tant que vous êtes bien le plus longtemps possible. Vous pouvez rétracter le ventre, contracter les fessiers, vous contractez, vous contractez, vous contractez, et à un moment donné, ouvrez grand la bouche, voilà, vous roulez les épaules. Et il faut vraiment ouvrir grand la bouche, il faut que la mâchoire tombe, parce que sinon, elle va rester contractée, et cette longue expiration va entraîner un effet de détente instantanée.
D'ailleurs, au début, hein, quand la Covid est arrivée, on disait qu'un des signes, c'était le fait de ne pas pouvoir tenir la respiration plus de 7 secondes.
Oui, c'est la polypnée, hein, les gens qui respirent très vite, très rapidement. Alors, on disait que la normale, c'est entre 12 et 15. Mmh. Ben, les gens qui sont au-delà de 22 par minute, c'est effectivement une polypnée. Et là, c'est une hyperpnée. Et là,
c'est, alors, polypnée, ça veut dire
que je respire beaucoup, trop rapidement.
Trop rapidement. Et l'autre?
Et bah, c'est l'apnée, la suspension du souffle.
Ça, c'est pour les plongeurs.
Exactement, ouais, quand je respire plus.
Alors, on a parlé du diaphragme tout à l'heure pour la respiration. Pour le dos, vous parlez, vous, de ce qu'on appelle le muscle poubelle, le psoas. Quel est son rôle?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, on parle de muscle poubelle, mais la réalité, c'est que il y a des muscles qui ont des fois des localisations un petit peu risquées. Je m'explique. Le psoas, c'est un muscle qui s'insère sur les lombaires et qui vient jusqu'au fémur. C'est un muscle donc qui est fléchisseur entre mon bas de dos, les vertèbres lombaires et la cuisse. Ça va me permettre de replier la cuisse vers le ventre, mais aussi de basculer mon bassin et de ramener mes lombaires vers la cuisse. Donc c'est un muscle fléchisseur. C'est un muscle qui est profond et c'est un muscle qui est extrêmement solide. Or, s'il est au niveau des lombaires, eh bien, il est dans une zone où il y a des racines nerveuses qui sont le nerf sciatique. Et qui vous dit nerf sciatique vous fait évoquer évidemment sciatique, c'est-à-dire la douleur du nerf sciatique. Donc selon les cas, si jamais cette localisation du nerf sciatique qui sort de la région lombaire est un peu trop proche du psoas, ou parce que j'ai un peu d'arthrose, ou parce que mes disques intervertébraux sont déjà un petit peu réduits, je vais avoir une fâcheuse tendance à le toucher, ce nerf. Eh bien, quand je vais être sous le coup d'une émotion, quand je suis sous le coup d'une émotion, on en a parlé depuis tout à l'heure,
et de l'impact des émotions, bien sûr.
Les émotions, alors, s'il y a une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que les émotions, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Et c'est là le pouvoir du yoga. C'est qu'en agissant sur ce corps, j'agis sur mes émotions. Eh bien, quand j'ai une émotion vive, de peur ou de colère, mes muscles vont se contracter, vont se bander pour que je puisse agir. C'est logique, ça c'est automatique. Et ça c'est un centième de seconde. On n'a pas le temps de voir venir. Le corps est déjà ready. Eh bien, quand ce psoas se contracte, comme si je serrais les fessiers ou je rentrais le ventre, eh bien, il va réduire l'espace. Et il peut créer une lombalgie ou une sciatalgie en irritant les racines nerveuses qui sont là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour libérer son dos?
Alors, on a parlé de ce muscle poubelle du psoas. Il y a d'autres localisations. Ça peut être aussi un petit muscle au niveau de la hanche, le muscle pyramidal, qui là aussi a une localisation particulière par rapport au nerf sciatique. Mais ça pourrait être aussi, je vais répondre à votre question.
Ça pourrait être aussi la
zone du trapèze. Souvent, vous savez, on dit on en a plein le dos, on a les épaules lourdes, on sent le poids qui pèse sur nos épaules. Ben ça, c'est une tension au niveau du trapèze et qui peut très bien se contracter, entraîner une névralgie cervico-brachiale dans le bras ou une névralgie au niveau du crâne. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous dire toujours la même chose, des choses très simples qui vont être, je contracte ces muscles et je les relâche et je les étire. Et comment faire? À travers des exercices. L'exercice le plus simple pour mobiliser ce psoas, ça va pas être nécessairement d'étirer la hanche, mais ça va être par exemple de basculer le bassin. Je fais des petits mouvements de bascule du bassin. Je fais ce qu'on appelle à quatre pattes le chien et le chat. J'arrondis le dos, je creuse le dos. Mais, et c'est là qu'on rejoint la respiration associée à la respiration. Car si vos auditeurs ont bien écouté, quand j'inspire, le muscle diaphragme se contracte, et quand j'expire, il se relâche, et quand le diaphragme se relâche, il envoie une détente aux autres muscles.
Quand on est bloqué du dos, donc, on ne tire pas comme des malades pour
le
débloquer.
On va au contraire apprivoiser, on va se mettre sur le dos, en boule, on fait des petits massages pour décontracter ce muscle psoas, mais pas seulement, parce que de fait, par répercussion, les autres muscles également vont se contracter, le carré des lombes va se contracturer, tous les petits muscles qui sont profonds aussi au niveau de la colonne vont se contracturer, se crisper, et tout ça, il va falloir les relâcher.
Et nos douleurs du dos ne sont pas indépendantes de nos croyances, on en revient aux fameuses croyances dont vous parliez tout à l'heure, pour les problèmes respiratoires d'ailleurs.
Oui, alors là, on a une vision de notre corps, on a une vision de notre maladie qui influence notre maladie. Par exemple, aujourd'hui, on sait que médicalement, les médecins généralistes ne doivent pas tout de suite faire des radios à leurs patients pour leur première crise de lombalgie. On évite, parce qu'on sait que si on a une radio qui monte de l'arthrose, ça a fixé l'idée qu'on a de l'arthrose et que ça risque de nous entraîner dans une idée que notre dos souffre, que donc il faut faire attention. Si je fais attention, je réduis mes mouvements. Si je réduis mes mouvements, j'augmente mes raideurs. Si j'augmente mes raideurs, dès que je bouge, j'ai un peu mal. Si dès que je bouge, j'ai un peu mal, je réduis mes mouvements et je rentre dans le cercle vicieux dont on a parlé.
Voilà. Alors que de plus en plus, même les campagnes de prévention.
Oui, alors ça, c'est pour
aujourd'hui,
moi, c'est un régal.
On changeait, vous avez vu.
Absolument. Ça, c'est un régal. Mais voilà, il a fallu 30 ans pour qu'on arrive à des campagnes d'information pour dire bougez si vous avez mal au dos.
Oui. Est-ce que restez pas allongé comme on vous le disait avant, bougez.
Voilà. Alors, avec, évidemment, avec précaution. Et c'est là l'intérêt du yoga, c'est que c'est des outils qui sont mesurés, qu'on peut adapter et qui nous font reprendre confiance en nous.
Allez, dans la collection Yoga Thérapie chez Odile Jacob, deux petits nouveaux, traiter les troubles respiratoires et soigner le mal de dos du docteur Lionel Coudron, qui était avec nous ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Doc.
Merci beaucoup, au plaisir.
Au plaisir, merci. Vous revenez quand vous voulez.
C'est gentil, merci, à bientôt.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.